Nous vous souhaitons la bienvenue à la suite de notre série de messages classiques. Nous voulons vous saluer ici, les milliers qui vont être ici ce matin à Nouvelle-Vie, mais aussi les dizaines de milliers qui se joignent à nous par Facebook Live et également qui vont télécharger le message sur nos différentes plateformes. Cette semaine, on a reçu énormément de témoignages de gens par Facebook Live de ce que Dieu fait. Un en particulier, sans nommer l'endroit, mais on a une permission de la maman et du fils de donner ce témoignage. Nous avons reçu un témoignage d'un couple qui nous disait qu'il vivait dans quelque part au Québec et vivait quelque chose de terrible. Leur fils, eux sont chrétiens, mais leur fils est beaucoup, beaucoup éloigné de Dieu, a eu des problèmes avec la loi, des problèmes de consommation. Et après une série de mauvais choix, mauvaises situations qui ont pris place, s'est retrouvé avec une sentence. Il a été trouvé coupable, il a fait du trafic, a été trouvé coupable d'une sentence de 33 mois de prison, pensant faire à peu près le sixième, un 6-7 mois. Et ses parents étaient dévastés, étaient finis. Notre fils est au pénitencier. Mais au pénitencier, il y a un aumônier qui est branché sur Nouvelle-Vie, qui fait écouter les prédications aux étudiants, etc., etc. Pas aux étudiants, mais aux gens, aux hommes là-bas, qui sont des étudiants. Et certaines semaines, il n'y a pas grande différence entre des prisonniers et nos étudiants TF. Mais ça, c'est une autre histoire. La dame m'a écrit pour me dire qu'il y a quelques dimanches, en Facebook Live, le garçon, le jeune homme, dans la jeune vingtaine, a donné sa vie au Seigneur là-bas, derrière les murs. Je veux le saluer ce matin. Pouvez-vous le saluer ce matin? Nous allons l'accompagner lorsqu'il va... Et là, c'est très paradoxal. Je ne sais pas s'il va être content d'entendre ça, parce que sa mère m'a dit, non, on priait, Seigneur, sors-le, sors-le, sors-le. Mais là, on prie, garde-le là aussi longtemps que tu veux, Seigneur. Afin qu'il soit enraciné dans le Seigneur avant de sortir. Alors, merci à l'équipe technique de Facebook Live qui rend tout ça possible. Notre vidéo ce matin d'intro nous illustrait lorsqu'il y a des bris de communication. Des bris de communication classiques, des coupures de courant classiques. Lorsque les batteries sont vides ou quelque chose qui était vivant et actif semble se briser spirituellement. J'aimerais aborder ce matin un message intitulé « Pourquoi continuer à prier? » Qu'est-ce qui arrive lorsqu'il y a un bris dans notre vie de prière, une tentation, un assèchement, un relâchement, un refroidissement dans notre vie de prière? Nous avons beaucoup d'outils pour vous aider. Je le rappelle toujours pour ceux qui se joignent à nous. Si vous allez sur notre site, vous allez trouver plusieurs outils pour vous aider à continuer, à commencer à prier, à continuer à prier pour vous mentorer, vous coacher. Vous aider à commencer ou à continuer des défis 10-30, trois différents coachings de 10 jours, 30 minutes par jour pendant 10 jours. C'est moi qui vous coach avec les prières, le Notre Père, avec les prières de Jésus ou avec les prières de la Bible. Nous avons aussi, si vous allez sur la section par le jeûne et la prière, il y a un grand nombre de messages qui ont été apportés dans nos réunions de prière spécifiquement pour alimenter votre vie de prière. Ce matin, c'est un message que j'ai d'abord apporté il y a un mois à Nouvelle-Vie-la-Prairie pour une réunion de prière mercredi soir. Quelques personnes étaient là. L'église de la Prairie était là. Et j'ai ressenti, alors qu'on était en train de terminer le message, j'ai vraiment ressenti sur mon cœur que toute l'église devrait l'entendre. Et la Bible parle de certaines choses qui doivent être confirmées sur la parole de deux ou trois témoins. Et dans les 12 heures qui ont suivi, j'ai reçu 5 personnes différentes, 3 personnes et 2 courriels disant, tu sais, pasteur, j'étais là mercredi, mais il y a tellement de monde qui ne l'ont pas entendu. Il faut que toute l'église entende ce message. Je crois que c'est un message qui est important lorsqu'on parle de la parole de Dieu nous appelle à ne jamais cesser de prier. 1 Thessaloniciens 5, 17 à 22, « Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » C'est ça que Dieu veut, c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus. « N'éteignez pas l'esprit et ne méprisez pas les promesses ou les prophéties, ce que Dieu a promis. » Je crois que l'expression ou la pensée de « prier sans cesse » ne nous appelle pas, ne nous donne pas un mandat de marmonner 24 heures par jour. La prière sans cesse, c'est que je suis tout le temps en train de marmonner une prière, quel que soit ce que je fais. Le texte, dans sa plus pure interprétation, à partir des textes originaux, dits littéraux originaux, parle bien plus de « ne cessez jamais de prier ». Ne cessez jamais de prier. Et lorsque nous cessons, parce que lorsque nous cessons de prier, il devient impossible d'avoir un cœur d'action de grâce. Avez-vous remarqué? À mesure que notre vie de prière baisse, le cœur devient ingrat, la gratitude s'évapore. Et lorsque nous cessons ou diminuons, lorsque nous cessons de prier, nous éteignons l'esprit. Nous éteignons l'œuvre de l'esprit en nous. Ne cessez jamais de prier. Rendez grâce. Ne cessez jamais de prier. N'éteignez pas l'esprit. Lorsque nous cessons de prier ou diminuons dans nos vies de prière devant Dieu, nous pouvons en venir à mépriser, à considérer comme impossible ou périmé ou passé date, mépriser les prophéties, mépriser les promesses de Dieu. Plus je suis dans la présence de Dieu, plus ses promesses sont vivantes et vraies. Et lorsque ma vie de prière diminue, je peux en venir à être refroidi, fermé, endurci, à la limite mépriser les promesses de Dieu, n'arrêter jamais de prier. Je connais un couple qui ont eu des triplets, trois enfants, trois bébés, et ils avaient déjà un petit garçon. Le petit garçon avait dit, « Maman, je voudrais tellement avoir un petit frère. » Alors le papa a dit, « Bien, il faut que tu pries. Prie pour que maman puisse avoir un petit bébé dans son ventre et puis après ça, pour que tu puisses avoir un petit frère. » Le petit garçon a pris ça au sérieux, s'est mis à prier pendant un mois complet tous les jours. « Maman, est-ce que maman... » Non, après un mois, non, elle continue à prier. Deuxième mois, papa, ça fait deux mois que j'ai prié. Non, pas encore, continue à prier. Troisième mois, bang, maman tombe enceinte et donne naissance à des triplets. Et le petit gars dit, « Papa, une chance, j'ai arrêté là, puis j'ai pas prié 4 mois, 5 mois, 6 mois. » Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut être tenté d'arrêter de prier. Plusieurs raisons qui peuvent faire en sorte que ce matin, ici, par Facebook Live, pour des dizaines de milliers, dans le secret de nos cœurs, il peut y avoir des hommes et des femmes qui ont été tentés ou qui ont succombé ou qui ont juste se sont relâchés, été tentés d'arrêter de prier. Des défaites en prière, des quelque chose qu'on pensait tellement qu'il était pour arriver qui n'a pas pris place, peuvent nous amener, nous tenter de ne pas continuer à prier. Des délais, ça fait tellement longtemps que je prie, des déceptions, un certain découragement ou même du dérangement. Il y a plein de choses à nous, on est venu distrait, on est venu occupé par tout le reste. D'un dérèglement dans nos propres vies. Lorsqu'il y a un dérèglement dans nos vies, lorsqu'on s'éloigne de ce que Dieu a préparé pour nous, un dérèglement dans nos vies, c'est très rare qu'il y ait quelqu'un qui est déréglé dans sa vie, qui commence à s'éloigner des choses de Dieu, dans le péché d'un côté et l'autre, maintient une vie de prière. Un dérèglement peut nous amener à voir la vie de prière diminuer. Une certaine dureté, une certaine désillusion, un distancement. C'est un message important car lorsque nous cessons de prier, nous perdons notre capacité d'action de grâce, nous éteignons l'esprit, nous méprisons les promesses. Alors, le message important appelle à quelques questions importantes. Est-ce que, sans condamnation, juste nos cœurs libres devant Dieu, et je prie la conviction de l'esprit, est-ce que vous avez une vie de prière hors de l'Église, chez vous? Est-ce que votre vie de prière est plus profonde que « bénis la nourriture »,« aide-moi Seigneur », puis « merci Seigneur » une fois de temps en temps? Est-ce que, pour être honnête, est-ce que c'est difficile pour vous d'avoir une vie de prière ou de développer une vie de prière? D'avoir une vie de prière, de développer une vie de prière, de garder une vie de prière a toujours été difficile pour moi. La prière, c'est difficile. La prière, on dit, ben non, pasteur, tu fais des jeûnes prolongés, tu pries et tu... Oui, oui, mais la prière ne m'est jamais venue facilement. Dès mes débuts, donner ma vie au Seigneur, je me souviens, rapidement, j'étais parti pour le collège biblique et j'étais revenu et travailler, étudier, préparer, me venait facilement, mais juste s'arrêter et prier. Je crois que c'est le propre des personnes très actives, très axées sur la proactivité, de s'arrêter de prier, difficile. Je me souviens, souvent j'avais des moments lamentables, je vais te raconter ici, mes premières prières où je m'endormais littéralement le matin sur mon oreiller, une petite bave sur le côté pendant que je suis supposé être en train de prier je me suis même déjà endormi au début d'une réunion. Vous dites, comment est-ce que c'est possible? Mais ma première été, après un an de collège biblique, je viens faire un stage d'été et je prêchais un mardi soir et j'étais dans le sous-sol de la petite église à Saint-Eustache et j'avais préparé tout après-midi mon message et plutôt d'aller à la maison, je me suis dit, je vais juste prier avant la réunion. Jusqu'à la réunion, là, je vais prier puis je vais embarquer sur le stage, je vais être comme un homme en feu. Et je me suis mis à prier en bas dans mon bureau à Saint-Eustache. Stage dans la petite église, puis à un moment donné, je me suis étendu sur mon bureau, je me suis tellement endormi que j'étais tellement bien que j'entendais de la musique jouer. j'entendais de l'orgue qui jouait. J'étais dans mon rêve, puis je disais, oh, c'est béni. Puis je me suis ouvert les yeux et c'était la réunion qui était commencée en haut. C'était la Madame Lecomte qui jouait de l'orgue. Et moi, j'ai monté en me suyant et puis en essayant d'avoir l'air d'un vrai pasteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'identifier avec moi ici? Ah, regardez-moi pas comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'identifier avec moi et dire, c'est pas facile? Est-ce que vous savez, quelques questions importantes, est-ce que vous réalisez, est-ce que c'est difficile pour vous de prier? Est-ce que vous avez été tenté, découragé, d'arrêter de prier? Et est-ce que vous savez pourquoi vraiment il est si important de continuer à prier? Je vais vous donner trois pensées très simples ce matin. Pourquoi c'était un classique tellement important de continuer à prier? Il est tellement important de continuer à prier parce que Dieu nous donne accès à sa puissance par la prière. Dans Luc chapitre 24, les versets 45 à 49, c'est tout de suite après la résurrection, le texte va apparaître à l'écran. Luc 24, Jésus vient de ressusciter, il nous ramène à l'essentiel, il s'adresse à chacun de nous. Et le royaume de Dieu, dans toute sa potentialité transformatrice, en quatre versets hyper simples. Vous avez à partir de Luc 24, les versets 45 à 49. « Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. En commençant par Jérusalem, vous êtes témoins de ces choses. Et voici, partie intégrale qu'il ne faut jamais oublier ou négliger. Et voici, j'enverrai sur vous ce que le Père, mon Père, a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Nous devons continuer à prier parce que seulement par la prière pouvons-nous être, que Dieu nous donne accès à sa puissance. Il y a dans ce texte tout ce qu'en quatre petits versets, l'ensemble de comment le royaume de Dieu avance, que ce qu'il faut qu'il prenne place. Il y en a qui vont dire, ah, c'est ça la recette nouvelle vie. Non, c'est pas la recette nouvelle vie, c'est la recette du royaume de Dieu que nous essayons d'appliquer ici à Nouvelle Vie. Il faut qu'il y ait la parole, le pardon, la proclamation, la puissance. Il faut une révélation. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. À chaque semaine, nous prions, nous cherchons la face de Dieu afin que de dimanche en dimanche, l'Esprit de Dieu vienne apporter une révélation au cœur. La lettre tue seule par elle-même, mais l'Esprit vivifie. L'Esprit donne la vie, l'esprit. Combien ont déjà vécu que même en lisant la parole à la maison ou à l'église, il y a un passage que vous n'avez jamais entendu ou un passage que vous connaissiez et tout à coup, l'Esprit de Dieu vient le révéler à ton cœur, vient faire la différence en toi. Il faut qu'il y ait une révélation, il faut qu'il y ait la résurrection. Le Christ souffrirait et ressusciterait le troisième jour. Quelques versets auparavant, nous lisons verset 34 qu'ils ont dit « Le Seigneur est réellement ressuscité ». Et c'est seulement par la prière que cette résurrection s'incarne et devient réalité en nous, où le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts en prière demeure en nous et est capable de venir redonner la vie à tout ce qui a besoin de renaître en nous. Il faut qu'il y ait repentance, qu'il y ait la repentance soit prêchée, le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations. Il faut qu'il y ait repentance. Et c'est seulement dans la présence de Dieu, en prière, que mon cœur se tourne et est prêt à changer. Repentance de simplement dire changer de direction. Pas une repentance seulement parce que à une date, le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur. Quelle position dangereuse! Un chrétien se retrouve lorsqu'il a cessé de changer, cessé d'être à l'écoute du Seigneur pour changer de direction, cessé de se repentir. Dites à la personne près de vous, tu as encore besoin de repentance. Dites à quelqu'un près de vous. Et dites à la personne de l'autre côté, et moi aussi. Il faut qu'il y ait une révélation, la résurrection. Il faut qu'il y ait une repentance. Il faut être revêtu de la puissance. Alors, vous allez, n'osez pas essayer d'accomplir mon œuvre, d'accomplir mon royaume sans en prière, afin de recevoir la puissance que je vais vous donner. Allez à Jérusalem. Et Acte 1-8 nous dit, alors qu'il les a appelés, n'osez pas quitter, essayez pas d'accomplir ce que je t'ai appelé à faire sans cette vie de prière, sans cette puissance. Et vous recevrez une puissance, un dunamis, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez témoins à Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre, c'est plus qu'une stratégie de progression d'évangélisation géographique graduelle. On va commencer par évangéliser chez nous, puis on verra par la suite. C'était infiniment au-delà de ça. La promesse de puissance pour ceux qui continuent à prier, qui s'enracinent en prière, est infiniment plus personnelle. C'est la prière pour cette puissance dont nous avons besoin dans les sphères les plus intimes et secrètes de nos vies. Il dit, vous allez recevoir une puissance à Jérusalem. Et Jérusalem, c'était le lieu de leur pire défaite. C'était l'endroit où, lorsqu'il a dit à Jérusalem, non, pas Jérusalem. L'endroit où on a régné, l'endroit où nous avons tout perdu, l'endroit où nous avons pleuré amèrement, l'endroit où le berger a été frappé, nous avons été dispersés. Le Seigneur dit, ne crains pas, ne fuis pas, ne t'habitue pas à vivre avec des ondes de défaite dans ta vie. Ma puissance va aller te rejoindre là où tu es. Puis en plus, c'est que nous, Jérusalem, de ma pire défaite, ma pire peur, mon pire combat, et pas seulement, chacun d'entre nous en a un différent, mais dans chaque saison de nos vies, il y a quelque chose qui n'était pas un combat hier, mais aujourd'hui est une zone de menace ou de défaite. Il y a une promesse de la puissance de Dieu. Je vais te donner une puissance afin que tu sois capable de vaincre dans ton Jérusalem, ton lieu de pire défaite. Et dans ton lieu de grande, d'inépuisable découverte. Et ça, c'est la Samarie. En Samarie, dans Actes des Apôtres, le 10e chapitre, alors que Pierre est en jeûne et prière, alors qu'il jeûne son dîner et qu'il est en train simplement de prier, de chercher Dieu, comme tu peux le faire au bureau, comme tu peux le faire à la maison, comme je peux le faire aussi, un matin, un midi, un soir, alors qu'il est devant Dieu, Dieu lui ouvre, lui fait découvrir jusqu'à ce moment-là. Vous imaginez, le Christ est ressuscité pour le monde entier, mais à ce moment-là, il avait dit pour toutes les nations, mais à ce moment-là, les hommes et les femmes remplis du Saint-Esprit n'avaient jamais apporter la parole à un non-juif. Pour eux, c'était leur affaire. C'était pour eux. Mais sur ce toit de maison, l'apôtre Pierre prie et l'Esprit de Dieu vient lui faire découvrir. J'aimerais dire à quelqu'un, penses-tu vraiment que tu as épuisé tout ce que Dieu avait pour toi, toutes les expériences qu'il avait pour toi? Ouvre-toi à lui aujourd'hui et laisse-le te faire découvrir les choses nouvelles qu'il a préparées pour toi. Quelqu'un devrait à l'avance applaudir les choses nouvelles. Samarie découverte. Et les extrémités de la terre, notre destinée ensemble qui va être au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Éphésiens 3:20, voici pourquoi nous continuons à prier, parce que Dieu nous donne accès à sa puissance. Éphésiens 3:20, or à celui qui peut faire infiniment au-delà, voulez-vous dire à voix haute avec moi, infiniment au-delà, de tout ce que nous demandons ou pensons. Est-ce que Dieu le Père est capable de tout? Infiniment au-delà. Ça, c'est un verset que les chrétiens connaissent beaucoup, est capable de faire infiniment au-delà. Et lorsque je préparais ce message, j'ai demandé, juste pour le fun, comme ça, dans les bureaux la semaine, j'ai demandé à 2-3 membres du staff pastoral de Nouvelle Vie. Savez-vous, c'est quoi la suite? Est-ce que vous connaissez le prochain verset, infiniment au-delà de ce que nous pensons? Et les trois à qui j'ai demandé, je n'aimerais pas, les trois à qui j'ai demandé ne le savaient pas. Alors, ils sont maintenant à la recherche d'un poste dans une autre église. Alors, il y a des postes qui s'ouvrent. Éphésiens 3:20, celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, ne manquez pas ceci, la clé est là, selon la puissance qui agit en nous, en accord avec la puissance qui va agir en nous, de génération en génération. Alors la question est-ce que je permets à sa puissance d'agir en moi? Pourquoi continuer à prier? Et le mot, en anglais, ils l'ont traduit « according to the power », selon la, en français, « kata », selon la mesure, en accord avec la mesure, en proportion avec la mesure qui va être distribuée de la puissance de Dieu, que tu vas laisser Dieu agir en toi. Il va faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. Nous continuons à prier parce que Dieu a encore aujourd'hui un infiniment au-delà pour toi et pour moi. Quelqu'un devrait dire oui. Lorsque j'étais à Nueva Vida hier soir, je voyais ce sanctuaire qui était rempli de centaines, au-dessus de 600 hispanophones qui étaient ici. J'ai demandé de voir Pasteur David Mazenko qui est avec nous ce matin, Pasteur David Irma. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à la Grande Assemblée aussi. Depuis les débuts, Pasteur David fait l'œuvre, Irma fait le travail avec lui, mais avait une garderie à la maison, travaillait à temps plein, en plus de travailler à temps plein, ici à Nouvelle Vie, à Nueva Vida. Avec la générosité du peuple et l'avancement de l'Église, nous sommes heureux de vous annoncer que commençant le 1er septembre, elle va travailler à plein temps à l'Église, en pastorant avec son mari David et Irma. Est-ce qu'on peut l'accueillir dans l'équipe ensemble, Irma? On est tellement fiers. Et David me rappelait que c'était le 7 septembre 2008, fait 9 ans de cela, qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Et il m'a donné son... On ne s'était jamais parlé comme ça avant, mais il m'a donné hier son côté de l'expérience à lui, alors que Dieu a appelé son épouse et lui de l'Argentine à venir au Canada, à apprendre le français. Il était établi dans la région de Sherbrooke. Et pour... Il ne savait pas comment c'était pour se faire un sens, une direction que Dieu était pour les appeler pour venir faire une œuvre hispanophone ici. Et à travers un concours de circonstances, j'ai été... On m'a parlé de Pasteur David qui a commencé aussi avec un petit groupe dans une maison. Et je suis allé déjeuner avec lui, puis lui m'a dit qu'il a écrit dans son agenda. On est allé déjeuner ensemble et c'était le 7 septembre 2008. Aujourd'hui, je méditais là-dessus cette semaine aussi. C'était un an après qu'on a fondé l'ACF et c'était l'année du fondement de l'ACF et de l'ITF, juste un an après. On était débordés, on était sous pression, on portait tellement d'affaires en même temps. Et je me souviens de cette pensée, de mettre ça avec lui. Et lui m'a donné sa version de la rencontre parce que j'ai donné rendez-vous au Cora. C'était une époque où je prenais des immenses déjeuners. Alors, je l'avais invité, puis il avait juste lui m'a dit de la grosseur de l'assiette, puis il fallait qu'il parle en français. En train d'apprendre le français. C'est un ingénieur de formation. Il est en train d'apprendre le français en même temps. Il essaie de m'expliquer, puis je lui posais des questions. Puis je pense que le déjeuner a resté là. Mais je me souviens à ce moment-là juste de la pensée là, de on ne se connaissait pas, on commence à se connaître. La pensée là, que Dieu prend un couple là, d'Argentine, l'amène ici, avec tout ce que nous avions. Et je me souviens d'être sorti de là en me disant tant que je dis à l'équipe qu'avec tout ce qu'on a, on va une église hispanophone. Mais j'avais été saisi par un verset dans la parole de Dieu dans les jours qui avaient suivi. J'ai un peuple nombreux pour vous. Dans cette ville. Et j'avais été touché avec la pensée, tu peux même pas l'imaginer, mais il y a un peuple nombreux d'hispanophones pour vous dans cette ville. Et Pasteur David m'a raconté que lui, il était parti en voiture et le cœur à l'envers aussi, parce que quitter tout à 15 000 km pour arriver, commencer à s'établir à Sherbrooke, avoir un peu de stabilité, travailler, tout ça. Et là, ça signifiait déménager encore pour s'emmener à Longueuil. Puis il y avait un combat avec Dieu sur la route. Seigneur, qu'est-ce qui va déménager encore? Et la pensée lui est venue, je suis allé te chercher à 15 000 km pour t'amener ici. Et faire une œuvre au-delà de tout ce que tu peux imaginer ou penser. Es-tu prête à faire le 100 km pour revenir et t'établir à Longueuil? Puis on a commencé ensemble avec un petit groupe dans une maison, par la suite dans la chapelle avec 70 places, par la suite dans l'auditorium avec 300 places. Et hier soir, ce sanctuaire était rempli d'hispanophones. Ils sont maintenant l'église hispanophone la plus nombreuse au Québec. Et ce n'est que le commencement au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Par la puissance qui agit en nous. Applaudissez plus que ça, Dieu fait une œuvre. Au-delà, nous devons continuer à prier parce que Dieu nous donne accès à sa puissance, mais nous devons activer cette puissance. Une pensée importante, la prière, la puissance illimitée de Dieu est souvent limitée à nos prières. Question. Si Dieu... Dieu nous donne accès, mais dans quelle mesure vais-je continuer à activer par mes prières cette puissance pour les choses au-delà de tout ce que je peux imaginer? Dans l'Évangile de Jean, chapitre 7, au verset 37 à 39, Jésus s'écriera, on va le lire dans un instant, « Si quelqu'un a soif ». Il faisait référence à ce moment-là à un événement qui avait pris place dans l'Exode, chapitre 17, 6. Le Seigneur avait dit « Frappez le rocher ». Ils ont frappé le rocher et de l'eau vive a coulé. Le peuple a été abreuvé. C'était une annonce. Chaque événement de l'Ancien Testament annonçait que Christ viendrait, qu'il serait le rocher et qu'il souffrirait, mourrait, ressusciterait et qu'un fleuve coulerait maintenant de vie pour les nations entières. Et c'était un événement et c'était un événement passé et une promesse future. Zacharie 14, 8. « En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, jailliront sur la terre entière. En ce jour-là, là, l'Éternel sera roi sur toute la terre et son nom sera le seul nom. » Cette phrase, si quelqu'un a soif, nous la retrouvons dans l'Évangile de Jean, au verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus se tenait debout et s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Nous lisons ces mots sans trop en comprendre le contexte, le dernier jour, le jour de la grande fête. La fête durait, les Juifs avaient trois grandes fêtes dans leur calendrier. Il y avait la fête de la Pâque, la fête des tabernacles, il y avait la fête qu'on appelait des sorties, ou la fête qui commémorait leur sortie. Et lorsqu'on arrive ici à cette grande fête, c'est une fête qui était remplie, qui durait pendant les sept jours, était remplie de rituels. Il se commémorait qu'un rocher avait été frappé, que l'eau avait jailli et que le Seigneur avait dit, « Bon, je vais envoyer mon Fils sur terre et ceux qui ont soif vont pouvoir venir à lui. Il va avoir une fontaine de ma puissance, de ma présence qui va couler dans le cœur d'êtres humains. Ceux qui auront soif vont venir, ils vont boire, ils vont trouver une fontaine, un fleuve. » Dites à voix haute avec moi, un fleuve. Il y a un fleuve qui va couler d'eux. Il y a un fleuve qui va couler d'eux. Mais au fil des siècles, ils avaient remplacé la relation, cette révélation, cette prière passionnée, cette soif, par une série de rituels. Et là, ça durait maintenant 7 jours. Ils faisaient toutes sortes de choses. Ils lisaient des prières, lisaient des versets. Et il y avait un rituel hallucinant. C'est le même contexte que vous avez vu Jésus qui entre et qui renverse les tables. Et le rituel est tellement loin d'une recherche profonde de Dieu. Il y a des versets, il y a une connaissance, il y a tout. Il y a toutes sortes de symboles. Le dernier jour, par exemple, le dernier jour de la grande fête, tous les historiens nous disent qu'ils prenaient des coupes et ils versaient l'eau. Et c'était comme un symbole. Voici l'eau maintenant qui est versée. Et c'est juste... Et le 8e jour, ils se mettaient à prier maintenant pour des eaux, pour des pluies, pour leur récolte. Ils avaient cessé de croire, manquez pas ceci, c'est important. Ils avaient cessé de croire et de prier, d'avoir soif du surnaturel. Ils étaient maintenant casaniers, maintenant réduits à une marche avec Dieu où, Seigneur, aide-moi dans mes affaires de tous les jours. Là, j'ai abdiqué d'essayer de croire pour le surnaturel. D'essayer de croire, d'activer la simplicité de cette promesse qu'un fleuve d'eau vive va jaillir du cœur d'un croyant qui garde sa soif en lui. Et Jésus vient pour honorer, pour respecter. Il vient, et nous ne savons pas s'il a assisté à la fête en entier, mais il est là pendant toute la fête. Et la Bible nous dit que le dernier jour, alors que ça fait 7 jours qu'il voit les rituels, qu'il voit le vide, alors que des gens ont besoin de Dieu, de quelque chose de vrai, de réel partout autour, et que même les leaders religieux sont aveuglés dans leurs rituels vides et sont réduits à prier pour leur récolte, leurs affaires, leurs petites affaires, et ont éliminé de leur cœur toute soif pour le véritable surnaturel de Dieu, que Jésus n'en peut plus, cherche une place libre. Il n'y a pas beaucoup de place libre à l'église Nouvelle-Vie. Je vais peut-être aller là à côté de Joanne. C'est loin un peu. Van, tu me connais, fait que tu ne seras pas intimidé. Alors, je vais juste venir. Jésus était assis au milieu de la foule, et c'est comme s'il n'en peut plus. Il n'a pas murmuré, il n'a pas dit attention un instant. La Bible dit, du milieu de la foule, Jésus se leva et s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et je lui donnerai à boire. Et il boira, et il jaillira dans son sein des fleuves d'eau vive. » Est-ce que vous comprenez qu'à ce moment-là, c'est toute la passion de Dieu qui s'exprimait. Dieu qui n'en peut plus de voir une église même évangélique québécoise où on se réunit à chaque dimanche pour faire nos trucs. Il cherche un peuple qui a encore soif. Si quelqu'un a soif. Voulez-vous applaudir un peu plus fort? Si quelqu'un a soif. Si quelqu'un a soif, alors c'est la question, est-ce que tu as soif? Est-ce que j'ai soif? Est-ce que je suis assis et que je regarde les vidéos du dernier 24 heures de Nouvelle Vie en disant « Wow, ça a été vraiment bien » ou est-ce que je dis « Seigneur, merci pour ce que tu nous as donné, mais j'ai soif! J'ai encore soif pour encore plus de toi, plus d'un fleuve d'eau vive qui va couler. » C'est la soif! La soif va déterminer. C'est pour ça que je continue à prier. Parce que nous devons activer cette puissance. C'est la soif qui va déterminer le surnaturel. C'est le désir qui va déterminer la destinée. C'est la mesure de ma soif qui va déterminer la manifestation du miraculeux surnaturel. J'ai soif, moi aussi. Un portrait spirituel activé. Dieu nous parle à toutes sortes de places et moi... Mon épouse est ici ce matin, elle est condamnée à être mariée à un prédicateur. C'est ma vie, moi. Ma vie, c'est préparer le prochain message. Le message fini. Je suis en train de préparer le prochain message. Ma tête touche toujours pour le prochain message. Il y a quelques semaines, on est allé faire un tour de ponton. Il y a quelqu'un de l'église que je nommerai pas, mais vous pouvez faire une enquête qu'il y a des pontons en Nouvelle-Vie, vous allez le trouver. Ils sont super fins. On est allé faire un tour de ponton sur le fleuve, des fleuves d'eau vive, sur le fleuve, le courant, le fleuve. C'était magnifique. On part, on s'en va en ponton et on fait une bonne heure et on s'arrête pour souper. Et là, on revient, le soleil commence à se coucher, on revient. Et alors qu'on revient, lorsqu'on est parti, on avait le courant derrière nous. Lorsqu'on est revenu, on avait le courant contre nous. Et lorsqu'on est revenu, en plein milieu du fleuve, il y a des paquebots, il y a toutes sortes d'affaires. C'est le fleuve, le courant est hallucinant. On est arrivé à la hauteur de... C'est-tu Verchères? On est arrivé à la hauteur de Varennes. On est arrivé à la hauteur de Varennes et tout à coup, en plein milieu du fleuve, bouh, on a manqué d'essence. Sur le fleuve. Et là, jusqu'à presque rendu sur le bord, mais pas rendu, on a jeté notre ancre et on était là sur le bord. Et pendant 2 à 3 heures, on était assis là parce que là, je fais pas de jugement contre la ville de Varennes. Je devrais même pas nommer la ville de Varennes, mais la ville de Varennes qui est sur le bord du fleuve, on l'a appelé les gardes côtiers. On dit on n'a pas d'embarcation disponible, alors soyez patients. Et on est là, et le fleuve coule, mais on est là et il n'y a rien à faire, on peut pas, on est si près et il y a des photos. Et savez-vous ce que la ville de Varennes a fait? Ils ont envoyé des camions de pompiers. 3 camions de pompiers, 2 autos de police, des camions, des échelles, mais pas d'embarcation. Pas d'embarcation. J'étais assis là et finalement, c'est un monsieur qui est venu, un plaisantier qui est venu nous porter de l'essence et on était capable de repartir. Mais j'étais assis là et moi, j'étais assis là et je me suis dit, pendant 2 à 3 heures, je me suis dit, il faut qu'il y ait une leçon spirituelle dans cette expérience. Il faut que je sorte quelque chose de ça, ça c'est sûr, j'ai 2 heures pour y penser. Et la première était celle-ci. Ça prend plus d'essence lorsqu'on est à contre-courant. Est-ce que vous me suivez? On a fait la même distance. On est parti avec... Lui a regardé son gage. Je lui ai dit, « Gars, il me reste en masse. J'ai un quart de réservoir. Il me reste un demi-réservoir. Ça prend un quart pour se rendre. Parfait, mais on avait le courant dans le dos. » Et lorsqu'on est revenu, la même distance a demandé le double d'essence. Dans ta marche avec Dieu, ça prend plus d'essence lorsque tu es à contre-courant. Tu ne peux pas te laisser aller sur ce que tu avais hier. Et au moment où tu traverses, où tu as des courants contraires, de deuil, de peine, d'incompréhension, d'opposition, c'est le moment de dire, j'ai soif. Seigneur, j'ai besoin d'encore plus. J'ai besoin que tu viennes encore plus. Quelqu'un devrait dire oui. Dites à quelqu'un près de vous, ça prend plus d'essence lorsqu'on est à contre-courant. Dites à quelqu'un près de vous. Et la deuxième application spirituelle, 2 applications spirituelles, pas pire, dans une soirée pognée sur le fleuve. On était là et on était tellement proche. Ce qui me rendait fou, là, une photo, les gars vont trouver la photo. Ce qui me rendait fou, c'est qu'on était super proche du bord. Le bord, il est là. Mais nous, on est ancré si près et pourtant si loin. Puis on a mis notre ancre. Et l'ancre, c'est quelque chose qui te rassure, mais qui te réduit. L'ancre, là, OK, on est correct, on est ici, on ne bouge pas, là, on a un ancre, là, c'est OK, là, on n'est pas... Mais je regardais au-dessus du bateau et tu voyais le courant, le fleuve. Et l'ancre qui, au début, me rassurait, en est venue, je l'avais en horreur, cette ancre. Parce que cette ancre me rassure, je ne suis pas en danger, je suis dans ma petite sécurité de ce que je connais, mais l'objectif est tellement proche, puis pourtant, il est tellement loin. J'aimerais dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre, c'est le temps de lever l'ancre. De lever l'ancre de ce qui te sécurise, de lever l'ancre de ce que tu connaissais, de lever l'ancre d'amertume, de lever l'ancre de ce que tu voulais, de lever l'ancre de tes échéanciers. Lève l'ancre et abandonne-toi au fleuve d'eau vive de ce que Dieu veut faire. Dis-lui, j'ai soif et Dieu va faire son œuvre en nous alors que nous allons continuer à prier. Quelqu'un devrait dire amen. C'est le temps de lever l'ancre. Pourquoi continuer à prier? Parce que Dieu nous donne accès à sa puissance, parce que nous devons activer cette puissance. Et je termine avec ceci, parce que Dieu accorde son autorité à nos prières pour sa puissance. Voici comment vous devez prier, a dit Jésus. Vous connaissez tellement ce texte. Dans le Notre Père, on a appelé le Notre Père, Matthieu 6, 11 à 13, que ton règne vienne. Jésus dit, voici comment vous allez prier, vous allez prier. Vous allez comprendre que c'est comme ça qu'on prie, que ton règne vienne, ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance. Seigneur, qui a le règne, qui a la puissance, qui a l'autorité, au siècle des siècles, jusqu'à Longueuil, où que vous soyez, en 2017, et toute l'Église Nouvelle Vie dit, amen. Voici comment tu devrais prier. Tu pries, c'est pourquoi nous continuons à prier. Seigneur, nous prions parce qu'alors que je prie, que je continue à appeler à toi ce que tu désires, tes plans, tes desseins dans le ciel vont s'accomplir sur la terre. Et je fais monter. Et il y a toutes sortes d'images dans les Écritures pour essayer de nous faire comprendre ce qui prend place dans cette dynamique qui est invisible, dans cette dynamique que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu, mais qui est aussi et plus réelle que n'importe quoi d'autre qu'on peut toucher. Et une de ces images, et celle avec laquelle je vais terminer, dans l'Apocalypse, on nous parle des prières avec c'est à la fin des temps. Et Apocalypse 5, 8 nous dit, « Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or, de parfum, qui sont les prières des croyants. » Ce sont les prières des croyants. Et Apocalypse 8, 1 à 5, qui apparaît à l'écran, nous dit, un autre ange vint et se tint sur l'autel avec un encensoir d'or et on lui donnait beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les croyants, de tous les saints, tous les croyants sur l'autel d'or qui est devant le trône. C'est un rappel important de la préciosité et de la permanence de nos prières. Aucune prière n'est perdue. Aucune prière n'est oubliée. Il y a même un verset dans les psaumes tellement magnifique qui dit qu'il recueille chacune de nos larmes, qu'elles sont écrites dans son livre. Certains d'entre vous pouvez vous identifier à moi pour dire qu'il y a certaines personnes, certains combats que je ne peux même pas compter. C'est quoi? Comment est-ce que tu peux compter des années d'intercession et de larmes? Mais il y a un rappel divin de tendresse, mais aussi un rappel avec une révélation. Chacune des prières est entendue. Elle monte vers Dieu. Puis c'est une pensée, ne manquez-la pas, que chaque croyant, chacun d'entre nous, il y a une coupe qui va être offerte devant Dieu. Je ne dis pas ça pour vous condamner ou dans une façon légaliste. Je veux juste que vous le voyez avec moi et qu'on puisse regarder à nos propres cœurs avec une certaine conviction. Qu'il y a une coupe de toutes mes prières, des prières de ma vie qui vont être présentées devant Dieu. Et c'est sûr que je me demande, depuis des années que j'ai cette image-là à cœur, je dis, Seigneur, quelle coupe vais-je t'offrir? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ma coupe? Est-ce qu'il va y avoir des prières de telle année à telle année, mais après ça, j'ai arrêté? Est-ce qu'il va y avoir plus d'heures dans la coupe Netflix que dans la coupe de prière? Est-ce qu'il va y avoir plus d'heures dans la coupe du sport ou des hobbies ou du shopping? Toutes les choses ont leur place. Mais Seigneur, quelle coupe de prière vais-je t'offrir? Chacune est précieuse. Elles ne sont pas oubliées par Dieu. Et regardez bien ce qui prend place. Dieu les recueille dans la coupe d'or. Et le dernier texte aujourd'hui, dans l'Apocalypse, chapitre 8, verset 1 à 5, « La fumée des parfums monta avec les prières, la diapo 26, s'il vous plaît, de la main de l'ange devant Dieu, et l'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel de Dieu, et il le relâcha sur la terre. » Manquez pas ceci. Les coupes de nos prières représentent la permanence et la préciosité de nos prières devant Dieu, chacune recueillie. Mais voici qu'alors que nos prières montent vers Dieu, Dieu y ajoute son autorité, ajoute son feu, ajoute sa puissance. Et les prières, nos prières, que tu aies ressenti quelque chose ou non, que tu aies vu quelque chose ou non avec tes yeux humains, les prières montent vers Dieu et Dieu les reçoit tellement précieuses. Il y met son feu, son autorité, sa puissance, son action et il les relâche sur la terre pour accomplir ses plans et ses desseins. C'est le même feu qui a conduit le peuple d'Israël. C'est le même feu où, à certains moments, Dieu intervenait pour défendre son peuple. Je veux dire à quelqu'un qui est sous attaque en ce moment, quelqu'un t'attaque injustement, quelqu'un t'attaque dans ta vie, tes prières montent vers lui. Tu n'as pas toi à combattre, tu n'as pas toi à rattaquer. Toi, tu te présentes devant Dieu et Dieu lui-même, par son feu, va défendre ses enfants, va envoyer sa défense, va envoyer sa justice, va envoyer... C'est le même feu! C'est le même feu qui a donné victoire à Élie contre les faux prophètes. C'est le même feu qui est descendu comme des flammes, semblables à des langues de feu qui se posèrent sur chacun d'eux le jour de la Pentecôte qui est venu les rendre capables d'accomplir les desseins de Dieu. Nous n'arrêtons jamais de prier parce que lorsque nos prières montent vers lui, elles ne sont jamais oubliées. Tu ne le vois pas, mais elles font une œuvre dans les lieux célestes. Elles sont en train d'accomplir les desseins de Dieu. Dieu y met son feu et elles reviennent sur la terre pour accomplir une œuvre éternelle. Au nom de Jésus, l'Église Nouvelle Vie dit Amen. J'invite les placeurs à s'avancer ce matin. Pourquoi? Pas les placeurs de l'équipe de musique, j'ai beaucoup de réunions. Je suis rendu avec des étudiants en prison et des placeurs sur le stage. Si vous voulez voir la vraie confusion, venez à la deuxième réunion, ça va être encore pire. Dieu nous donne accès. C'est merveilleux parce que c'est en Facebook Live en plus. Même pas le temps, je n'ai même pas rien réparé. Pourquoi continuer à prier? Parce que Dieu nous donne accès à sa puissance, mais nous devons activer cette puissance. Et Dieu accorde son autorité à nos prières par sa puissance. Elle monte vers lui. Et Dieu y met son feu, sa conviction, son autorité. Il met le surnaturel qui revient sur la terre dans ses temps parfaits pour accomplir son œuvre. J'ai tellement touché d'entendre récemment le témoignage de comment... Le royaume de Dieu est venu toucher une famille, la famille du pasteur Robert Morris à Gateway Church à Dallas, au Texas. Pasteur Morris a un ministère qui est mondial maintenant. C'est une des grandes églises des États-Unis. C'est une église qui a un réseau de plusieurs centaines d'églises. Ses livres sont distribués dans le monde et c'est intéressant parce qu'il y a un lien de, de cœur lorsque j'étais à la funéraille de David Wilkerson. Pasteur Robert Morris était là et puis on avait échangé quelques mots. Et en plus, nous avons une église amie, sœur, fille, à Bordeaux-Rive-Droite avec Pasteur Patrice Martorano et Dan Nutten et toute l'équipe sont des gradués avec nous, des fils dans la foi et plusieurs d'entre nous. On est en contact avec eux toujours, on travaille avec eux. Et l'église de Robert Morris à Gateway a pris à cœur l'église de Bordeaux. Ils sont arrivés en France puis on dit on cherche l'église où Dieu fait une œuvre extraordinaire. Ils se sont mis à les soutenir. Alors il y a un lien de cœur et j'étais tellement touché récemment d'entendre comment il a raconté comment l'évangile est venu dans sa famille. Il a raconté que son grand-père, ça c'est pas son père, son grand-père, comment son grand-père était le premier à venir au Seigneur, le premier de la famille. On recule là, 50 ans en arrière. Et son grand-père travaillait, était un homme manuel qui littéralement couvrait des trous sur la route. Avec son compagnon de travail qui était avec lui, un homme qui travaillait manuellement avec lui sous le soleil de plomb du Texas, était un chrétien et s'est mis à lui parler pendant longtemps, à prier pour lui, à parler du Seigneur. Et cet homme-là s'appelle Ray Alexander et il lui parlait du Seigneur. Et puis le père était très réfractaire, très fermé à ça. Et un jour, alors que son cœur s'ouvrait, Ray lui a dit, écoute, on va faire ça en travaillant, mais si tu veux, viens à la maison ce soir et je vais m'asseoir et je vais t'expliquer ce que Dieu a pour toi. C'est quoi le plan de Dieu pour ta vie? Et le grand-père a dit, OK, je vais voir à ça. Et puis, finalement, il dit à sa femme, bon, ben, je m'en vais passer un petit bout de soirée avec mon ami Ray Alexander. Mais son fils avait 16 ans, puis il venait juste d'avoir son permis de conduire. Puis c'est entre vous qui s'en souvenez. Lorsque tu viens d'avoir ton permis de conduire, n'importe quelle excuse sont bonnes. C'est le seul moment où les fils sont prêts à aller faire des commissions pour leur mère. Je peux-tu prendre le tour? Je peux-tu prendre le tour? Alors, papa, je peux-tu conduire? Je peux-tu conduire? OK, tu peux venir avec moi, mais on va aller. Tu vas me conduire chez M. Alexander. Mais le père était tellement réfractaire aux choses spirituelles. Qui a dit, je veux pas que tu entres et que tu écoutes ce que ce monsieur-là va dire. Tu vas rester dehors, puis moi, je vais l'écouter, puis après ça, tu me reconduiras. Okay, dans longtemps que je conduis. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, le grand-père est assis et se met à écouter le message de Ray Alexander. Et lui ne donne pas sa vie au Seigneur ce soir-là. Il l'écoute, mais le garçon, qui est le père de Robert Morris, est assis sur la petite véranda avec une porte, avec un grillage, un screen. Et puis, il entend le message. Et lui, assis dans les marches, son père est fermé, mais lui, assis dans les marches, donne sa vie au Seigneur. Il est touché. Il entend ça, il dit, c'était comme si c'était pour moi. Arrive chez lui, partage le message. Sa famille vient au Seigneur. Et ses fils vient au Seigneur. Et Robert Morris, né dans une famille chrétienne et grandit dans les choses de Dieu, donne sa vie au Seigneur lui-même. Et lorsque Robert devient pasteur, son grand-père est rendu à 78 ans, et toujours pas chrétien. Et Robert a à cœur d'aller témoigner à son grand-père. Et lorsqu'il lui témoigne, le grand-papa donne sa vie au Seigneur. Il est baptisé d'eau et quelques années avant qu'il quitte, plusieurs années à servir Dieu. Et lorsque son grand-père est venu au Seigneur, il dit, grand-papa, comment t'es venu au Seigneur? Là, il raconte toute l'histoire. Et Robert Morris a cette idée, peut-être que je pourrais retrouver ce monsieur-là. On est 30 ans plus tard. Peut-être que je pourrais retrouver Ray Alexander qui a témoigné à mon grand-père. Et trouve son nom facilement. Il l'appelle au téléphone et lui dit, « Bonjour, je suis le pasteur Robert Morris. » Il dit, « Je vous connais, vous êtes à la télévision. » Tu sais, oui. Il dit, est-ce que vous êtes bien Ray Alexander? » Oui. « Est-ce que vous êtes bien un chrétien? » Oui. « Est-ce que vous êtes le chrétien qui travaillait à la voirie avec mon grand-père? » Il dit, « Oui. » Puis, « Ça fait 30 ans que je prie pour lui. » Puis il dit, attends une minute, je reviens. Puis il est revenu, puis il dit, j'ai une liste de gens que Dieu m'a mis à cœur d'intercéder, de prier. Puis à côté, là, tous les noms qui sont venus au Seigneur, j'écris, merci Seigneur. Puis le nom de ton grand-père, ça fait 30 ans. Mais il dit, ce soir, tu viens de me le dire, je vais écrire, merci Seigneur. Et Robert Morris l'a amené devant l'église au complet. Et toute la famille, sa famille entière et l'impact de cet homme-là, à travers Ray Alexander, un homme qui remplit des nids de poules sous le chaud soleil du Texas, mais qui partage sa foi et qui a compris que nous n'arrêtons jamais de prier parce que Dieu nous donne accès à sa puissance. Alors que nous activons sa puissance, nos prières montent vers lui et Dieu les reçoit chacune d'entre elles. Elles font leurs œuvres dans ses temps parfaits et elles reviennent sur la terre avec le feu de Dieu pour transformer des vies dans le nom de Jésus. Et l'Église Nouvelle Vie dit un dernier grand Amen et Amen.
Penchez la tête avec moi un instant, j'ai un appel particulier à faire ce matin. Tant par Facebook Live qu'ici à Nouvelle Vie. C'est très, très personnel. Donnez au Seigneur votre meilleure attention, votre meilleur cœur. Voici l'appel que j'avais sur mon cœur pour cette matinée où Dieu a des destinées importantes. Si vous êtes ici ce matin et vous dites, personne ne va regarder autour, tout le monde a la tête penchée. Dans une certaine sphère de ma vie, j'avais été tenté d'arrêter de prier. J'étais rendu comme ces gens, le 8e jour de la grande fête, j'étais rendu à juste me contenter, je veux juste être en paix, j'ai abdiqué de croire Dieu pour le surnaturel dans la vie de quelqu'un. Ou la mienne, trop de choses étaient arrivées que je ne comprenais pas et ma vie de prière était solidement attaquée ou même presque éteinte. Mais ce matin, je viens devant Dieu. Si vous êtes ici en toute simplicité, vous dites, j'ai été tenté d'arrêter de prier dans un aspect de ma vie. Et ce matin, je veux remettre mon cœur au Seigneur pour lui demander, Seigneur, viens réanimer la flamme. Est-ce que je peux voir votre main partout dans le Seigneur? Wow! Centaines de personnes ici, je crois des milliers par Facebook Live. Si vous êtes ici ce matin, vous dites, mes prières ont changé. J'avais comme abdiqué de prier pour le surnaturel, pour les eaux vives, la soif pour les eaux vives surnaturelles de Dieu. Puis j'étais rendu à prier juste pour ma récolte, mes affaires de tous les jours. Mais ce matin, j'avais perdu de vue, perdu ma vision, que mes prières montent vers Dieu, mais que Dieu, il met son feu. Et que mes prières vont revenir sur terre, quel que soit le temps que ça prendra, pour accomplir ces desseins parfaits. Et ce matin, je veux dire, Seigneur, conduis-moi en ta présence. Je veux être renouvelé dans mon intercession devant toi, dans le nom de Jésus. Que ceux qui disent, c'est moi, est-ce qu'on peut se lever ensemble? Et à l'avance, est-ce qu'on peut donner une main au Seigneur pour ce qu'il va faire à travers un peuple qui va revenir à lui? Nous allons le prier.